couple et par ce pauvre homme. Moi, j'ai vu, je l'ai vu à la télé, mais là, le témoignage que nous a fait entendre Annie par sa femme, c'est la première fois que j'entends. Mmh. Puis bien honnêtement, on avait tous les deux la même réaction.
Ouais. Avec une plaie là, grande comme une main.
C'est épouvantable, épouvantable.
Ben, souhaitons que sa mort conduise à quelque part, à quelque chose de positif, qu'il y ait des recommandations, puis qu'on puisse éviter dans l'avenir des situations semblables. Mais franchement, nos sympathies à toute la famille Normand Meunier, là, qui est mort dans des conditions vraiment terribles. OK, Nathalie, on va parler de politique provinciale. Alors, hier, c'était la grande journée pour Éric Duhaime. Il a confirmé la nouvelle que tout le monde connaissait, c'est qu'il sera candidat pour le Parti conservateur quand il y aura une élection dans le comté d'Arthabasca.
Et cette élection, il la souhaite la plus rapide possible. La question que je vous ai posée un peu plus tôt, c'est Éric Duhaime devrait-il être le seul candidat en liste pour l'élection partielle dans Tabasca? Je ne sais pas ce que tu es tenté de répondre, ce que les auditeurs sont tentés de répondre. Moi, j'ai déjà ma réponse et c'est non. Il ne devrait pas être le seul candidat en liste. Ce serait une mauvaise idée pour lui, tout d'abord, parce qu'il donnerait l'impression du gars qui a peur d'affronter ses adversaires, ce qui pourrait jouer en sa défaveur. C'est sûr qu'il y a des militants conservateurs qui souhaitent son entrée à l'Assemblée nationale. Puis c'est très louable et je pense qu'Éric Duhaime mérite sa place à l'Assemblée nationale. Mais dans les circonstances, je crois que ça nous prend une élection en bonne et due forme, d'autant que le Parti québécois a fermé la porte à ne pas présenter de candidat. Mais dans le cas d'Éric Duhaime, moi, j'ai été impressionnée par le nombre de candidats, c'est-à-dire de militants qui se sont déplacés à son rassemblement. 400 supporters, 400 soutiens, c'est pas rien. Pour un parti qui n'a aucun député à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, on a eu Éric Duhaime ce midi au micro. Éric Duhaime nous a confirmé, ça fait un an qu'il est sur le terrain.
Oui, il a même loué un appartement à Victoriaville.
À Victoriaville. Et il nous disait, s'il est élu dans le comté, il va déménager dans le comté. Pour lui, ça sera plus proche de Québec. Alors, il est totalement investi dans cette élection partielle à venir.
Mais lui, il a demandé au Parti québécois de ne pas présenter de candidat contre lui.
Oui, effectivement, ce que le parti...
Mais il me semble que ça ne lui ressemble pas à Éric Duhaime, qui est plutôt un bagarreur. Et là, il dit, s'il vous plaît, ne bagarrez pas contre moi.
Oui, tu as raison. Il a demandé probablement parce que le Parti québécois, c'est son principal adversaire. Moi, je ne crois pas que cette élection va être une élection à trois. Je pense que ça va se jouer entre le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec. D'ailleurs, à la dernière élection générale, le Parti conservateur du Québec est arrivé en deuxième position, ce qui n'est pas rien. Mais en même temps, la façon dont le Parti conservateur tente de se positionner au Québec en dit long sur notre mode de scrutin. C'est extrêmement révoltant pour un chef comme Éric Duhaime de savoir que avec presque autant de votes, le Parti libéral du Québec, avec un peu plus de votes, le Parti libéral du Québec à la dernière élection a fait élire 21 députés. Tu vois, 591 077 voix pour le Parti libéral du Québec, 21 députés. Éric Duhaime, 530 000 voix, 730 786 voix, 0 député. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système électoral. On le sait. Combien de promesses, de réformes, de modes de scrutin avons-nous eu au fil des années? Mais là, cette fois-ci, comme on dit, ça frappe. Ça frappe très fort, très, très fort.
OK. Marois Risky et son conjoint Geoffroy Kelly appuient Pablo Rodriguez là, dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, une très, très bonne nouvelle pour Pablo Rodriguez.
Une très, très bonne nouvelle. 9 députés au total du caucus appuient Pablo Rodriguez contre 5 pour Charles Milliard. Dans le cas de Carl Blackburn, Marc Bélanger, Mario Roy, aucun député ne les appuie. Dans le cas de Carl Blackburn, c'est un peu normal parce qu'il est arrivé
très tard.
Très, très tard. Dans le cas de Marois Risky, son conjoint, Jeff Kelly, ce sont des appuis de taille parce que c'est un couple qui a de l'aura au caucus, qui a de l'aura au sein du Parti libéral du Québec, en particulier Marois, là, parce que Marois elle-même a été sollicitée pour se présenter à la chefferie du PLQ. Elle a décliné compte tenu de l'âge de ses enfants. Dans le cas de Marois, ça s'explique, cet appui s'explique parce qu'elle connaît Pablo depuis une dizaine d'années déjà. Elle a été candidate dans le passé dans le cadre d'une élection générale qu'elle a perdue face à une candidate néo-démocrate. Et elle apprécie énormément, elle a beaucoup apprécié le travail de Pablo Rodriguez au Parti libéral du Canada. Mais elle a lancé un défi à Pablo de convaincre Marie-Claude Nicoz de revenir au bercail. Marie-Claude Nicoz, la semaine passée, a appuyé officiellement Pablo Rodriguez. Là, aujourd'hui, c'est l'appui de Marois et son conjoint. Pour Pablo Rodriguez, on peut dire que ça va bien, ça va très bien. Par contre, le vrai défi, c'est de la gagner, cette course. Mais je vais t'expliquer ce qui va se passer. Que Pablo Rodriguez gagne ou non cette course, selon moi, il sera candidat dans le comté de Saint-Laurent.
Qui est le comté actuel
de Marois-Risky. En sport, on appelle ça une passe sur la palette. Il n'y a pas de reproche à faire à personne. Mais n'empêche que c'est intéressant à quel point certains appuis pourraient se traduire par un positionnement qui pourrait être non négligeable pour Pablo Rodriguez. Mmh. Évidemment, je fais cette affirmation sans avoir aucune confirmation. C'est mon sentiment, mon expérience politique qui me guide dans ce scénario que je viens d'évoquer avec toi, dans cette option qui
sera offerte. Tu penses que si Pablo Rodriguez n'était pas élu chef du Parti libéral, il sera de la prochaine élection, puis il continuerait la lutte politique comme député?
Pourquoi pas? Parce qu'il y a des candidats qui se rallient après une course à la chefferie. Deuxièmement, que va faire Pablo Rodriguez? Il a fait beaucoup de politique dans sa vie. Il est un excellent député et ministre à Ottawa. Mais ce serait une très belle fin de carrière pour lui, être député à Québec.
Je vais te poser une question plate.
Oui.
Est-ce que ça se peut qu'il regrette d'avoir quitté le Parti libéral du Canada? Parce que quand il a quitté, c'était Justin Trudeau qui était premier ministre. Les perspectives électorales étaient vraiment pas bonnes. Oups, changement total. Mark Carney est élu premier ministre. Il aurait probablement été réélu, Pablo Rodriguez. Ouais. Est-ce qu'il regrette aujourd'hui?
Écoute, toi et moi, on n'est pas dans sa tête.
Non.
Mais on peut se mettre dans sa peau.
Ouais.
Puis moi, si je me mettais dans la peau de Pablo Rodriguez, oui, j'aurais des regrets.
T'aurais des regrets?
J'aurais des regrets parce qu'il a probablement mal calculé sa décision. Sa décision était prise, mais le calcul qu'il a fait, qui a conduit à sa décision aujourd'hui, tu l'as exprimé, là, c'est complètement différent de ce qu'il avait envisagé. Comme quoi, en politique, les choses peuvent changer sur un dixaine. Mais dans le cas de Pablo Rodriguez, je ne vois pas comment le parti pourrait se passer de son talent. Encore une fois, s'il gagne, c'est une autre chose, mais s'il perd la chefferie, c'est une personne, quelqu'un avec une énorme expérience qui pourrait faire une différence auprès, entre autres, des militants qui sont issus de l'immigration. Parce que Marois-Risky et Pablo Rodriguez sont tous les deux issus de l'immigration. Alors, pour le parti, ce serait une très bonne, comme on dit en sport, une très bonne, pas une candidature, mais un recrutement.
Bon recrutement, ouais, enfin. Tout à fait. Un premier choix au repêchage.
Oui, voilà. Exactement, c'est
ça. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci,
on se reparle demain. Dimitri est là au retour.
98.5, circulation.
À la 10, en direction ouest, on avait un véhicule en panne, voie de droite à la hauteur de Taschereau. C'est terminé. Autoroute des Laurentides, c'est toujours un peu avant le secteur Saint-Martin. 13 sud avant Aikmoire, 13 nord, on est presque à Aikmoire et avant la 640, 25 Terrebonne. Un premier ralentissement puis 9. Pour le reste, c'est avant l'avenue Marcel Villeneuve. Descarinards, c'est avant Côte-Saint-Luc, Pont-Samuel, Le Champlain, de la Virandrie, tunnel La Fontaine après Yves-Frévaux, 5:30 à 40 minutes. Pont-Mercier, on est rendu après l'échangeur Saint-Pierre, Pont-Charles-de-Gaulle, un peu avant le secteur Henri-Bourassa. Et ça va bien pour le métro. Parler du 150e anniversaire de Canac au lieu de la circulation, c'est ridicule, mais pas autant que leur prix, par exemple, Canac québécois depuis 150 ans.
Pour la fête des mères, offrez-lui plus qu'un cadeau. Offrez-lui le silence, le calme, le moment présent. Réservez son expérience au scandinave.com.
Encore une période spectaculaire pour Hyundai. Quel match pour le Tucson, fiable en défense, puissant en attaque. Plus de 9 Tucson sur 10 vendus au Canada au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route aujourd'hui. Quel joueur complet! Et pendant l'événement Hyundai en série, financez tous les Tucson 2025 à partir de 3,99% à l'achat. Le jeu reprend, la passe est faite vers la gauche, mise en échec en territoire.
Détails et conditions sur HyundaiCanada.com.
Quand on a une chambre IKEA, on dort mieux. Avec des rideaux opaques, il fait plus sombre. Avec une couette douillette, notre lit est plus confortable. Mais ça rend nos nuits plus plates. Parce que le monstre sous notre lit dort beaucoup mieux lui aussi. Et il est pas mal plus dur à réveiller. Hey,
fais-moi plus jamais peur demain.
Visitez IKEA dès aujourd'hui pour mieux dormir dès demain et trouver tout ce qu'il faut pour aménager une chambre à faire rêver.
À partir du 1er juin, les gens âgés de 18 à 64 ans se rajoutent aux patients admissibles couverts par le régime canadien de soins dentaires. Prenez rendez-vous dès maintenant sur centrelapointe.com ou au 1-800-LAPOINTE.
Sur mes chantiers, j'ai assuré ma machinerie puis mes outils chez Beneva. Puis ils ont fait le tour de mes besoins. Tellement du bon monde. Ça m'a donné le goût d'être encore plus une bonne personne. Fait qu'à cette heure, sur mes chantiers, il n'y a pas une cantine, il y a 5 cantines. VG, vegan, keto, flexi quelque chose, puis un rack hot dog. La gang est bien contente.
Beneva. Bon monde, bon prix. Votre entreprise est bien assurée. Obtenez une soumission.
Fatigué de voir votre patio s'effriter aussi vite que votre enthousiasme du lundi matin? Ne vous découragez plus. Balcon Verdun transforme votre espace depuis plus de 35 ans avec des produits sans entretien. Spécialiste des balcons en fibre de verre et des rampes en aluminium, Balcon Verdun installe des matériaux aussi robustes que votre café quotidien. Pour une estimation gratuite, visitez balconverdun.com. Avec Balcon Verdun, redonnez vie à vos espaces extérieurs et à votre motivation.
Toujours là, où on ne l'attend pas, Marie-Ève Tremblay a un sens aiguisé de l'écoute.
Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon.
C'est ça le problème. On n'a pas d'argent, puis on n'a pas de culture de préservation du patrimoine. T'sais, les villes là, qui ne protègent pas leurs buildings.
C'est épouvantable, monsieur le maire, vous ne protégez pas l'ancien couvent des Ursulines.
Mais qui va payer?
Je me sens dans un conseil municipal. Là.
Et on est-tu lundi aujourd'hui?
Oui, on est lundi.
Sortez à vos conseils municipaux en soir. Là.
Marie-Ève Tremblay anime Radio Texto en semaine de 10h à midi au 98.5.
Le Québec, maintenant.
Maintenant.
Politique fédérale avec Dimitri Soudas.
Dimitri, je pensais à ça un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je ne me souviens pas d'une journée aussi importante depuis très, très, très longtemps pour un premier ministre du Canada que la journée de demain avec cette rencontre à la Maison-Blanche entre Mark Carney et Donald Trump.
Malheureusement, Philippe, tu as raison. Aucun premier ministre canadien d'après-guerre n'a été confronté à un tel niveau de tension existentielle. Les trois exemples, bien sûr, la guerre de 1812, les raids fainéants. La dernière fois, c'était les années 1920-1930, le War Plan Red. L'armée américaine avait développé un véritable plan d'invasion préventive du Canada en cas de conflit avec le Royaume-Uni. Donc, demain, à 12h45, le bureau du premier ministre n'a toujours pas confirmé l'heure, mais mes contacts à la Maison-Blanche me disent que c'est vers 12h45 que Mark Carney va rencontrer Donald Trump.
Tu as des contacts à la Maison-Blanche?
Oui. J'étais là, bien sûr, avec le premier ministre Harper. Une des choses que je fais, puis je le dis et je le répète, jamais je ne serai capable de l'imiter, mais j'essaye de faire ce que Jean Lapierre faisait, c'est-à-dire développer et garder des contacts. Donc, c'est 12h45 demain. Ce n'est pas encore public, mais là, c'est public, on vient de le dire.
Ouais.
Mark Carney est déjà en passant à Washington.
Oui, il est arrivé cet après-midi. On a vu les images à la télé. Puis au moins, il y avait un drapeau des États-Unis, bien sûr, à la base aérienne Andrews. Mais il y avait un drapeau du Canada aussi pour l'accueillir.
L'autre chose que j'ai constatée, c'est que le premier ministre canadien a été accueilli par la chef du protocole. Aucun ministre, aucun secrétaire du gouvernement. Aujourd'hui, puis j'aimerais qu'on entende Donald Trump, il y a à peine une heure, ce qu'il vient de dire.
OK.
What's your expectation for your meeting with the Canadian Prime Minister tomorrow?
I don't know. He's coming to see me. I'm not sure what he wants to see me about, but I guess he wants to make a deal. Everybody does. They all want to make a deal because we have something that they all want. We have something that they all want. China wants to make a deal very badly. You see what's happening to China?
Alors, il se place encore une fois dans la position du grand maître de jeu. Hein. Mark Carney vient, je ne sais pas trop pourquoi, mais il est comme tous les autres. Il veut faire un deal avec moi. La Chine veut faire un deal. Tout le monde veut faire un deal avec moi.
C'est quand même incroyable.
Oui.
C'est quand même incroyable que le président des États-Unis, le seul commentaire qu'il a à faire, c'est « Je ne sais pas, il vient me voir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il vient me voir. Il veut faire un deal. » Donc, demain, c'est...
On va dire les choses comme elles sont. C'est baveux, c'est méprisant.
Oui. Il est baveux, il est méprisant. Toi, tu es un peu plus gentil que moi. Donc, demain, c'est quand même un moment déterminant pour le Canada. Parce que la vraie question, c'est est-ce que Mark Carney, demain, va réussir... Le défi de Mark Carney, demain, il doit être ferme, il doit être diplomate et il doit être lucide. Il y a plus qu'un scénario sur ce qui va se passer demain, sur comment est-ce que Donald Trump, lors de la mêlée de presse, devant le foyer, dans le bureau ovale, qu'est-ce qu'il va dire, comment est-ce qu'il va le dire. L'objectif à court terme. Je deviens de plus en plus convaincu. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Est-ce que l'accord actuel nous convient? Si la réponse est